C'est quand même un endroit où bah, vous allez voir des foules comme accroulent, les poules d'eau vont venir se reproduire sur ces petits points verts qu'il y a dans tous les bassins. On peut voir une nichée de colverts, vous voyez. Donc comme vous voyez, on descend de niveau et l'eau va s'écouler, hein, par gravitation, naturellement en fait, sans aide de moteurs électriques.
Dans le cadre des sorties organisées par la communauté urbaine d'Arras en partenariat avec Cité Nature, une découverte de deux styles de jardins était proposée au public. Au programme, les jardins écologiques et récréatifs du Val de Scarpe, un ancien espace industriel urbain réhabilité en jardin thématique et pédagogique à Cité Nature. Ce rendez-vous a commencé par la visite d'un espace écologique et respectueux du biotope inspiré des jardins japonais et situé aux abords de la Scarpe, derrière la piscine Aquarena, pour se terminé dans le jardin pédagogique de Cité Nature. Accompagné d'un guide, le public a pu découvrir les richesses aquatiques et enrichir ses connaissances sur sa faune et sa flore.
Ici, on a l'eau qui est utilisée. L'eau ici, l'eau de la Scarpe, mais aussi, à terme de loisirs, l'eau du centre balnéo-ludique. Hein ? Et la zone commerciale. Vous voyez qu'une architecture un peu novatrice. C'est pour vous dire que l'eau ici, elle a l'aspect naturel à travers les bassins et les choses, les plantations que nous avons faites, et il y a l'aspect loisir. Parce que l'eau que vous voyez ici, elle va faire le tour de ce jardin pour arriver dans la roselière qui se trouve là et repartir par une petite écusette qui va refournir la Scarpe en fait. Pour oxygéner de l'eau, ce sont les plantes, c'est les cascades au cas où. Hein, c'est ce qu'on va voir ici en dessous du pont. Vous allez voir que l'eau de ce bassin-là va retomber dans la roselière et ça va permettre d'oxygéner l'eau pour éventuellement les carpes et les choses qui s'y trouvent, hein, parce qu'il y en aura. Sur la roselière, telle que vous la voyez, 30 espèces de plantes ont été mises et vous voyez que la pente est douce. La pente est douce, on n'a pas fait des pentes abruptes comme sur un canal par exemple pour permettre à la faune d'aller sur les berges, les amphibiens je pense. Si vous avez un mur tout droit, bien évidemment, le triton traité, il n'est pas ici, mais un triton quelconque, une grenouille, un crapaud commun, ne pourra pas accéder aux berges pour hiberner. Donc ici, la volonté, c'était de faire des plantes douces sur ce plan d'eau, de façon à permettre à la faune de pouvoir accéder à ces lieux de nidification. Hein. 30 espèces de plantes différentes ont été plantées sur ces pentes douces, sur ces berges, de façon à créer de la diversité. On va retrouver beaucoup de foules de macroule, de poules d'eau, ce qu'on retrouve beaucoup dans nos régions, en fait, le col vert, hein, qui lui reste aussi souvent ici. Voilà. Ce que je disais, c'était des plantations indigènes qui nous permettront de pas trop y toucher, quoi. Indigène veut dire que l'intervention de l'homme n'est pas trop nécessaire. Elles vont pousser, s'épanouir, et ça permettra aussi à des espèces envahissantes de ne pas y venir. Je pense à l'ortie qu'on connaît tous. L'ortie, si on le laisse sur une berge, eh bien, il n'y a plus que ça au bout d'un an.
Comment est née l'idée de ce jardin ? Parce qu'il y avait une ancienne usine avant dessus. Ouais,
se rapproprier, recréer un espace naturel en plein cœur de ville, toujours pour meubler cette trame verte et bleue, vous voyez.
Et du coup, alors, vous parliez tout à l'heure de gestion différenciée. Alors, qu'est-ce que ça signifie exactement ?
La gestion différenciée, c'est de ne pas utiliser de produits chimiques sur des sites comme ceux-là, de laisser pousser des herbes, comme vous voyez, une prairie fleurie ici qui va créer de la diversité. Je vais attirer des insectes, je vais attirer de la faune, je vais attirer de la flore, je vais recréer un début de chaîne alimentaire. Ces insectes vont être mangés par des oiseaux, nidification des oiseaux avec les arbres qui meublent la Scarpe, comme l'aulne, le sol tétard et tout ça. Donc on recrée de la diversité, tout simplement en laissant la nature faire, tout simplement. Et ça, c'est assez rare dans un jardin public comme celui-là. Vous voyez ici, ce sont les petits fossés qui permettent d'alimenter la roselière et de repartir la petite éclusette qui est là. Là-bas au fond, on va passer devant tout à l'heure. Ça permet aussi d'avoir cette zone tampon quand il y a des niveaux d'eau trop élevés. Parce que ici, on va quand même récupérer des eaux de ruissellement. Quand la terre est très sèche, ça va couler. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, l'eau, les débordements risquent d'arriver l'été, parce que la terre est endammée avec la chaleur, le ruissellement, avec un gros orage, ça va se remplir très vite. Donc c'est ce qu'on peut appeler des petits fossés pour repartir dans la Scarpe. Mais aussi, ça a aussi cette valeur-là, c'est que ça va emmener toutes les espèces à travers ces petits chemins naturels. Vous voyez, encore une fois, une volonté de le préserver des yeux du public. Vous voyez, les enfants qui se promènent ici vont pouvoir jouer au foot sur cette pelouse, mais voyant ces grandes herbes-là, ne vont pas accéder au fossé. Donc on est vraiment en train de préserver cette faune qui existe dans ce milieu en faisant des aménagements comme cela. Alors quand on ne connaît pas ce principe-là, on peut se dire, bah mince, qu'est-ce qu'ils font les employés municipaux, ils coupent pas l'herbe. Mais vous voyez que c'est une fonction fondamentale pour la faune ici. Hein ? Là, on va avoir du papillon, on va avoir de la coccinelle, on va voir tout ça. On voit beaucoup ici cette papillon citron, comme on peut voir là-bas, vous voyez. Alors nous, en classe, comme on fait des séances d'éducation à l'environnement, eh bien, c'est très facile à repérer pour les enfants avec des noms rigolos. Mais c'est son vrai nom, le papillon citron. Donc on va retrouver tout ça, on va aller voir, on va pouvoir palper, avoir ce rôle d'éducation. Parce que je suis venu ici une fois, il y a très longtemps, et une maman disait, oh, c'est sale, ils n'ont pas tendu et tout ça. Et j'ai eu, à ma grande surprise, l'enfant qui a repris sa maman, il me dit, ben non maman, c'est pour les papillons, pour qu'ils puissent butiner. Voilà. Donc c'est une façon de gérer cet endroit. Vous voyez, c'est assez flagrant ici. Ils vont passer la tondeuse ici, mais ils vont pas passer là. Encore de la diversité.
Il y a un recensement qui est fait régulièrement de ces insectes et de ces, justement, ces animaux.
Il y a des associations qui viennent fréquemment pour regarder l'évolution du site. Hein. Et puis après, ben, la communauté urbaine, je pense que va aussi voir un peu tout ce qui s'y passe. Ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Mais on voit assez vite, hein, c'est assez palpable, rien qu'au regard qu'on... Quand on y vient à cette époque-ci, on voit plein d'insectes, donc c'est un milieu qui vit bien, hein, simplement au regard, sans faire d'inventaire très précis.
Et comme c'est un jardin qui a été créé de toutes pièces, vous parliez tout à l'heure de poissons qui étaient dans l'eau. Comment ils sont arrivés là ?
Ben avec l'éclusette que d'accord. Vous voyez là, ah, okay. Puisque l'eau vient de la scarpe et repart dans la scarpe. Donc on va dire qu'il y en a qui viennent s'égarer aussi. Il y a aussi les œufs qui sont amenés par les foulques et les poules, les canards qui vivent sur ces plans d'eau, qui transportent naturellement tous ces œufs qui peuvent se reproduire dans ce bassin d'eau. Et qui plus est, à la sortie du bassin qui est là, suspendu, vous avez des lâchers d'eau qui vont oxygéner cette eau, parce que c'est une eau stagnante ici. Elle bouge, mais très peu. Donc c'est favorable aussi pour ces poissons, les carpes, et tout ce qui vit dans la scarpe peut arriver ici, bien évidemment. Vous voyez, l'aspect, je voulais vous faire voir aussi, et vous donner une grosse différence entre les pentes douces sur des berges et des pentes telles que notre région les avait fabriquées. Regardez face à nous. Vous imaginez un canard ou un amphibien qui veut remonter sur la berge de l'autre côté, là, avec l'usine Vigala, c'est pratiquement impossible. Vous voyez l'intérêt d'une pente douce sur un plan d'eau comme celui-là. Il va pouvoir accéder, hiberner sur la berge, dans les différents aménagements tels que la zone refuge qu'on a vu tout à l'heure, et repartir après vers les zones humides qu'il affectionne particulièrement. Donc c'est pas spectaculaire, mais ça a une importance considérable pour la diversité. Et par contre, ici, on va trouver une autre espèce de sol, qui est le sol tétard. Et le sol tétard, eh bien, c'est un arbre caverneux, il est plein de trous. Soit les chouettes chevrèches vont venir nicher, ou soit ben, les feuilles vont créer de l'humus, vont attirer des insectes, et vont créer en quelque sorte un début de chaîne alimentaire pour les oiseaux qui nichent dedans. Donc nous, à la communauté urbaine, les sols tétards, on les taille en boule tous les ans, de façon à favoriser ça. Hein.
Comme c'est en plein cœur de ville, la cohabitation avec le public, c'est ouvert, évidemment, au public, évidemment. Elle se fait facilement
On a tous les inconvénients d'un jardin, d'un centre-ville, avec les tessons de bouteilles et tout ça. Mais ce jardin-là étant situé un petit peu en dessous ou loin du centre-ville, il est quand même assez privilégié. Il n'y a pas trop de dégâts. Il y a des tags, il y a des tessons de bouteilles de temps à autre, mais globalement, il est protégé.
La deuxième partie de la visite consistait en la découverte du jardin pédagogique hébergé par Cité Nature. J'ai demandé à Hervé, l'un de ses jardiniers, de nous en dire un peu plus concernant ce jardin et son entretien.
Alors vous êtes jardinier, est-ce qu'on peut dire que vous êtes jardinier polyvalent ?
Oui, tout à fait. À l'origine, je suis plasticien ici, quoi. C'est de la polyvalence, ouais.
Vous êtes plasticien. Est-ce que vous avez découvert le jardinage à Cité Nature ou vous connaissiez déjà un peu les ficelles ?
Je jardinais un petit peu chez moi, quoi. Ouais. Hein ? J'ai aguerri mon expérience ici, quoi.
Et depuis combien de temps vous travaillez ici ?
Une bonne quinzaine d'années.
Et du coup, vous avez constaté une évolution, vous avez tenté des expériences avec des choses qui n'ont pas marché
Oui, enfin, bon, on travaille beaucoup avec des plantes quand même, ce sont des graines, ce sont des hybrides quand même, quoi. Donc on a essayé quelques variétés de légumes anciennes, mais mon expérience n'est pas assez ancienne pour vous dire un peu ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas. Tout dépend du temps quand même. Hein.
Alors, est-ce que vous utilisez par exemple le système de jachère ?
Pas trop. Moi j'essaie quand même de faire un peu de culture associée, c'est-à-dire qu'il y a certains légumes qui s'associent bien les uns avec les autres, il y en a d'autres qui s'associent beaucoup moins bien, donc j'essaye de travailler un peu comme ça, en mettant des aromatiques parfois près des tomates qui repoussent certains parasites. Bon, c'est pas une règle absolue, mais ça peut fonctionner.
Justement, parlant de parasites et d'insectes, évidemment, quand on fait du légume, il faut faire attention. Est-ce que vous traitez de manière biologique ?
Oui.
Sur les tomates, par exemple.
Je traite le moins possible, pour dire quasiment jamais. Mais là, ça m'est arrivé mettre, il n'y a pas longtemps, de la bouillie bordelaise qui est tolérée en agriculture biologique.
Alors c'est quoi exactement la bouillie bordelaise ?
La bouillie bordelaise, c'est à base de cuivre. Donc c'est simplement du cuivre oxydé. Vous savez, des fois, quand on voit un tuyau de cuivre qui est un peu de couleur bleue ou verte, et voilà, c'est cette substance qu'on utilise qui empêche normalement le mildiou de s'installer. Le mildiou qui est un champignon.
La récolte des légumes, des fruits, ça se passe comment ? Vous les vendez, vous les donnez, vous les conservez ?
Non, on les consomme entre nous. On ne peut pas faire de production, il n'y en a pas assez. Bon, après, c'est un but plus pédagogique, donc il faut quand même laisser des légumes pour que les enfants et les visiteurs puissent aussi voir la maturité d'un fruit. Bon, là, on a certains artichauts, on les a laissés venir à maturité pour montrer aussi qu'un artichaut, c'est une fleur.
Ah, je vois qu'il y a pas mal aussi d'abeilles, et du coup, je me pose une question, les ruches peut-être, non, dans Cité Nature ?
Pourquoi pas, parce que c'est vrai qu'ici, c'est assez épargné par la pollution extérieure. Finalement, maintenant, en ville, je trouve que par rapport à la campagne, qui pour moi n'est plus la campagne, parce que c'est un open field très industrialisé, donc finalement, ça serait peut-être une bonne expérience.
Peut-être une idée de quelque chose que vous auriez voulu expérimenter à l'avenir, dans le jardin ?
Vous me posez une question difficile. En plus, peut-être associer la sculpture au végétal, parce qu'il y a des végétaux qui ont tendance à vouloir grimper. Hein, comme là, on a mis une structure en bambou. Je pense que ça pourrait être sympathique. Donc là, on a une sculpture qui est de Victor Roman, un plasticien qui est décédé de nos jours. Et là, c'est une plasticienne qui a réalisé ça pour nous. Donc à l'origine, c'était pas fait pour être mis à l'extérieur, mais on les a réadaptés. Puis ma foi, ils ont leur place ici.
Pour terminer ce sujet, j'ai demandé à l'une des personnes présentes pour ce rendez-vous nature ce qu'elle avait pensé de la visite de ces jardins.
Très enrichissant, très joli, surtout par un beau soleil, et puis les plantes sont magnifiques. C'est reposant justement, c'est joli. Bon, j'ai appris qu'il y a beaucoup de plantes, comme les palmiers, tout ce qui était plantes exotiques ne tenait pas beaucoup. Donc en fait c'est la nature qui décide, et ça nous donne une leçon d'humilité, parce que si la nature n'est pas décidée à ce que la plante soit ici dans notre région, eh bien c'est la nature qui va décider, pas le jardinier.
Donc là, on est au cœur de Cité Nature. Vous étiez déjà venu peut-être ? Vous découvrez un peu cette cohabitation entre fleurs, légumes et sculptures ?
Alors, je suis venue l'année dernière. J'ai vu quelques changements, notamment avec la culture, les plantations de lavande. Ça a fort évolué. Et puis, c'est vrai que les gens s'en occupent avec amour. Donc, ça fait plaisir. Et c'est très joli aussi, tous les tableaux qu'ils ont mis avec la vue de la fleur par nous, humains, et la vue de la fleur par les insectes. Donc ça, je trouve que c'est vraiment enrichissant également de voir ça. Et puis, c'est vrai que c'est un mélange d'eau, de sculpture, de jardin, de fleurs. Et c'est très, très joli.
C'était un sujet autour d'une visite des jardins écologiques et pédagogiques proposés dans le cadre des sorties organisées par la communauté urbaine d'Arras en partenariat avec Cité Nature.